Bonjour à tous. Comme les chants ont bien présenté, je voudrais introduire ce message par cette pensée qui nous dit que la part de Dieu, en ce qui concerne les hommes et les femmes, elle a été faite. La part de Dieu a été faite. Jésus nous aime, Jésus nous a aimés, et ce dernier chant que nous venons de chanter nous montre à quel point Dieu nous a aimés. Le message que je voudrais vous apporter cet après-midi, c'est finalement pas ce que Dieu a fait, mais la part qui nous reste à nous. Parce que cet après-midi, nous allons voir que devant le fait que Dieu a fait sa part, il nous appelle nous aussi à faire la nôtre. Ce verset, c'est vrai que c'est un peu la continuité, pour ceux qui étaient là ce matin, vous verrez peut-être certaines similitudes. J'aimerais ouvrir la parole par un premier verset dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 11 et au verset 22. Romains 11, 22, ce verset nous dit « Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. » Autrement, tu seras aussi retranché. Dieu est amour, mais Dieu est juste. Et c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Pour illustrer ces propos, deux courts textes. Le premier, dans le livre des Actes, au chapitre 2. Actes, chapitre 2, verset 41, je rentrerai dans des explications après, mais c'est pour voir la différence, où ça va vous sauter aux yeux justement, la comparaison. Je lis, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. » Un deuxième texte, dans Exode, chapitre 32, et nous lisons le verset 28. Exode 32, 28. Les enfants de Lévi firent se coordonner Moïse et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. On a ce nombre de 3000 qui revient à un endroit très très précis parce que dans les deux cas, c'est un moment où avait lieu une fête juive très spéciale qui s'appelait la fête de la moisson, que ce soit dans le Nouveau Testament ou dans l'Ancien Testament. Et il y a cette même fête. Le peuple d'Israël arrive en Sinaï, la loi va leur être révélée, et il va arriver ce qui se passe parce qu'il va y avoir l'histoire du veau d'or. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ est révélé, il va mourir à la croix, et après cette révélation, il va y avoir la Pentecôte, 50 jours après, au même moment, à la même fête. On voit deux issues complètement différentes. On voit dans l'Ancien Testament 3000 hommes qui périssent, et dans le Nouveau Testament, on voit 3000 âmes qui se convertissent et qui ont la vie. Il y a deux moissons différentes. Et il y a la moisson des œuvres de la loi qui mène à un point qui est la mort. Et il y a la moisson des œuvres de la foi qui, elle, mène à la vie. Et c'est là où je veux en venir cet après-midi. Nous voyons une même fête qui, selon l'angle où on la regarde, il y a deux issues complètement différentes. D'un côté, il y a la mort. D'un côté, il y a la vie. Le premier point que j'aimerais partager avec vous cet après-midi, c'est ceci, c'est que voir et faire même des expériences avec Dieu ne nous rapproche pas de lui. On en a la preuve parce que l'endroit où il y a les âmes qui périssent, c'est dans l'Ancien Testament. Or, le peuple d'Israël, à ce moment-là, a vécu des choses avec Dieu qui étaient tout de même assez exceptionnel. Exceptionnel tout court, même, je dirais. C'est ce peuple d'Israël qui a vécu les 10 plaies en Égypte. Ces 10 plaies, elles étaient aussi, chacune d'elles, exceptionnelles. Je vous invite à prendre vos Bibles et à lire l'Exode, si vous voulez le voir. On le connaît tous, même si vous n'avez jamais entendu parler de Dieu, vous avez tous entendu au moins une fois dans votre vie cette histoire du peuple d'Israël qui passe à travers la mer Rouge, qui s'ouvre devant lui. Et le peuple passe à pied sec. Le peuple d'Israël était conduit par Dieu lui-même sous la forme d'une nuée en plein jour ou une colonne de feu dans la nuit. Le peuple d'Israël a connu la manne, la nourriture qui tombait du ciel tous les jours, presque tous les jours. Le peuple d'Israël a connu le rocher d'Horeb qui a été une source quand il a été frappé. Et pour clore cette liste d'une manière la meilleure qui soit, le peuple d'Israël a entendu de ses propres oreilles les 10 commandements donnés par Dieu lui-même du haut de la montagne. Certains ont été privilégiés. Regardez, juste pour l'exemple, on va le lire parce que c'est vrai que quand on s'y arrête, c'est quand même un beau tableau. Exode chapitre 24. Exode chapitre 24, et nous lisons le verset 9 jusqu'au verset 11. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. Moi, je trouve que comme lieu de restaurant, c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ces personnes-là ont vu des choses exceptionnelles. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, regardez un peu plus loin avec moi. Comment on peut en arriver au verset 5 du chapitre 32 de l'Exode. Tourne quelques pages. Le peuple demande à Aaron de leur faire un dieu parce qu'il s'inquiète, il ne voit pas Moïse qui redescend de la montagne. Et il demande au verset 5, « Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, « Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Sauf qu'il venait de bâtir un veau d'or. Comment, après avoir vu toutes ces choses, on peut en arriver là? C'est impossible. On s'imagine nous-mêmes, comment est-ce possible? Il y a une réponse, c'est qu'on peut voir les choses, on peut même expérimenter des choses avec Dieu. Pourtant, ce que Dieu nous demande, c'est de le connaître. Et si on ne connaît pas Dieu, on se met dans une situation où il peut nous arriver la même chose qui est arrivée au peuple d'Israël, à savoir de périr, parce qu'on ne connaît pas Dieu. J'ouvre une parenthèse, le premier verset du chapitre 32 nous dit « Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit « Allons !» Fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Nous qui sommes chrétiens, c'est un verset, je vous invite, à ceux qui connaissent Dieu, à prendre ce verset et à y réfléchir avec cette autre lumière que Jésus-Christ est monté au ciel. Et certains disent qu'il tarde à revenir. Et on voit que par rapport à ça, le peuple d'Israël va tomber dans une situation terrible en fabriquant ce veau d'or, en faisant une fête, entre guillemets, au nom de l'Éternel. L'Éternel, quand il a vu ces choses, il a pleuré. Et nous, qui sommes dans l'Église et qui, peut-être, attendons le retour du Seigneur, qui aimerions qu'il revienne, que faisons-nous? Qu'est-ce que nous faisons aussi? Voilà, je ferme la parenthèse. Dans Jérémie, au chapitre 4, verset 22, il est dit « Certainement, mon peuple est fou. Il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. » Dans 1 Corinthiens, Dieu dit « Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. » Comment je peux connaître Dieu ? Comment je peux connaître Dieu ? On voit, il y a une réponse que j'ai déjà dite, c'est que ce ne sont pas nos expériences. On peut faire des expériences. Nos expériences peuvent nous rapprocher de Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'on va être guéri qu'on va être sauvé. C'est pour ça que Jésus, quand il parlait, faisait toujours la différence entre le mot sauvé et le mot guéri. Être guéri, c'est pas être sauvé. Faire une expérience, avoir une bénédiction qui vient de Dieu, ce n'est pas être sauvé. Et Dieu nous appelle à vouloir être sauvé. C'est ce que Dieu veut. Quand le peuple d'Israël a entendu Dieu parler directement du ciel, ça c'est dans l'Exode chapitre 20, ils n'ont même pas réfléchi aux paroles qu'ils ont entendues qui venaient du ciel. Parce que quand il y a eu l'histoire du veau d'or, ils ont enfreint je ne sais combien de commandements que Dieu avait donnés. On voit une chose qui est sûre, c'est que la loi ne nous amène pas à une situation où nous serons réconciliés avec Dieu. La loi nous mène à la mort. Et ce ne sont pas par nos œuvres des lois que nous, on se met. Il peut y avoir certains qui se disent « Moi, je veux faire la loi de la Bible. Je veux essayer par moi-même d'être bon. Je veux essayer de ne pas mentir. Je veux essayer d'être joyeux autour de moi, de ne pas voler, d'avoir un bon langage. » Oui, c'est bien. Il y a des tas de personnes qui ne sont pas chrétiens et qui ont une vie exemplaire. J'en ai dans mon travail, autour de moi. Ce sont des témoignages irréprochables. Et pourtant, il leur manque une chose, c'est qu'ils ne connaissent pas Dieu. Et ils auront le même sort que ces Israélites qui ont péri. Parce que la loi, nos œuvres, ne nous sauvent pas. Ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvés, mais c'est par le sacrifice de Jésus à la croix du calvaire. L'apôtre Paul, il écrit aux Galates, au chapitre 3, au verset 10, ne cherchez pas, je vais vous le lire. « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Donc si je choisis de vouloir obtenir le salut par mes bonnes œuvres, je suis sous la malédiction. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Je suis sous la malédiction. Je continue. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenue malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Et là, nous avons tout le plan du salut qui est là. Jésus a accompli la loi à notre place. Il est mort pour nous, parce que la loi, c'est une malédiction. Nous arrivons à cette deuxième partie, celle du Nouveau Testament, qui est plus réjouissante, certes, mais qui est n'importe comment, qui n'est que lié au choix de ceux qui écoutent. C'est moi qui décide si oui ou non je suis sauvé ou pas. C'est moi qui décide si oui ou non je veux accepter que Jésus soit mort à ma place et que moi, par mes propres forces, je ne peux rien faire pour obtenir ce salut. Voyons ce que l'apôtre Pierre dit justement. Il y a cette deuxième partie qui nous dit aussi bas nous sommes, la grâce est pour tous. Quoi que nous ayons fait, parce que ce ne sont pas nos œuvres qui nous sauvent, ce ne sont pas nos œuvres non plus qui nous perdent, quelque sorte. Parce que c'est la foi qui nous sauve. Il y a un brigand à côté de Jésus qui a été sauvé. Et son témoignage seul suffit à prouver que ce ne sont pas par nos œuvres que nous sommes sauvés, parce que si c'était le cas, lui, il n'aurait rien à faire au ciel, croyez-moi. Dans Actes chapitre 2, verset 22, il est écrit « Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein, arrêté selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. » Pierre s'adresse à des gens qui ont simplement crucifié Jésus. Quand même. Quoi de pire, quelque part, que d'avoir participé à la crucifixion de Dieu incarné? Quoi de pire que cela? On peut avoir tué des personnes, peut-être, mais il y a quelque chose, je pense, pire, c'est d'avoir tué le Fils de Dieu. Pierre s'adresse à eux. Et s'il y a des gens qui, peut-être, étaient bas par rapport aux œuvres qu'ils avaient faites, c'était bien eux. Parce qu'ils avaient tué le Christ. Ils avaient tué Jésus. En le faisant crucifier, alors qu'il était sans péché, alors que lui a vécu toujours avec des mains qui bénissaient, nous l'avons vu ce matin, ses mains qui guérissaient, ses mains qui se posaient sur la belle-mère de Pierre pour la guérir de sa maladie, ses mains qui faisaient relever le boiteux, ses mains qui guérissaient les aveugles. Encore aujourd'hui, c'est possible. Et si vous êtes dans la maladie, si vous êtes dans la souffrance, si vous êtes dans le deuil, ces mêmes mains peuvent vous couvrir. Et vous pourrez avoir la bénédiction de Dieu sur votre vie si vous choisissez de vous placer sous cette main. Cette main, elle ne demande qu'à venir sur vous. Simplement, est-ce que vous voulez aller sous cette main? Est-ce que vous voulez que cette main vous bénisse? Je ne parle pas de la mienne. La main de Dieu. La main de Dieu veut bénir votre vie. Simplement, c'est toujours la même chose. Dieu attend. Dieu a tout accompli à la croix. Il l'a dit, Jésus a dit sur la croix, tout est accompli, il n'y a plus rien à faire. La part de Dieu est accomplie et terminée. Maintenant, Dieu n'agira qu'en conséquence de nos actions. Dieu n'agira qu'en conséquence de nos propres actions. Est-ce que, suite à ce message, je vais me rapprocher de Dieu ou est-ce que je vais rester dans ma situation ? Le message que Pierre apportait aux Juifs, c'était que malgré le fait qu'ils avaient crucifié Jésus, aussi bas qu'ils étaient, ils pouvaient encore être sauvés. Paul écrit aux Romains, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Cet autre verset avec lequel on associe, parce que la référence ressemble, c'est que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Notre nature pécheresse n'a pas d'autre issue que la mort, parce qu'elle nous amène toujours à enfreindre la loi, cette malédiction. Jésus, lui, a réussi, malgré cette nature pécheresse, à ne commettre aucun péché. Et il est mort à notre place. Paul écrit aux Colossiens, chapitre 2, verset 14, « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Comme je disais tout à l'heure, la part de Dieu, elle est faite, elle est accomplie. Maintenant, il reste une chose. C'est notre part à nous. Que ferons-nous? Ça, c'est la réponse des Juifs. Que ferons-nous? On l'a entendu ce matin, mais je repose la question. Que ferons-nous à l'écoute de ce message? Verset 37 du chapitre 2. « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, Que ferons-nous ? Avoir le cœur touché, c'est pas suffisant. Avoir été touché dans nos émotions, parce que le message était bien dit ou pas, parce qu'il y avait une bonne ambiance, il y avait de la musique, les paroles étaient profondes. On peut être touché, mais c'est pas suffisant. Il faut faire un pas de plus. Et l'apôtre Pierre donne cette réponse. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. De quoi se repentir ? Certains pourraient le dire, moi j'ai une vie réglée. Je n'ai pas menti, je n'ai pas volé, je paye mes impôts, je travaille. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est notre nature qui est pécheresse. N'avons-nous pas nous-mêmes des fois ces fameuses, on va y arriver bientôt, ces fameuses résolutions de la nouvelle année, ça vous parle ? Ces résolutions qu'on essaye de prendre le 1er janvier et qui, une semaine après, ne tient plus ? Bon, ça fait longtemps que j'ai arrêté avec ça. Mais ça nous montre une chose, c'est que dès qu'on se met une loi sur nous-mêmes, on est incapable de la respecter. Et même notre propre loi, on est incapable de la respecter. L'apôtre Paul, je n'ai pas la citation, mais il dit « Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. » C'est comme ça. On a une nature pécheresse. Et pour cela, on a besoin de la grâce de Dieu parce que cette nature-là nous empêche d'accéder à Dieu. Cette nature-là nous empêche d'entrer dans le royaume de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas, Dieu il est trois fois saint, il ne peut pas tolérer le péché en sa présence. Il nous faut une nouvelle nature. Il nous faut être une nouvelle création pour pouvoir avoir accès au royaume de Dieu. Et comment c'est possible ? C'est rendu possible par le sacrifice de Jésus à la croix du calvaire. Je viens devant lui, je dis « Seigneur, change-moi, pardonne-moi pour mes péchés. » Et après, il faut croire. Il ne suffit pas simplement de dire « pardon », parce que là aussi, on peut dire pardon plein de fois dans notre vie. Ce qui est important, ce n'est pas de dire pardon, c'est de le vivre. Il y a une différence entre dire des choses et vraiment le vivre au fond de notre cœur. Il y a des fois le faux pardon, vous savez, je pardonne mais j'oublie pas. Ça, c'est pas du pardon. Je demande pardon, mais en fait, je regrette pas ce que j'ai fait. Ça, c'est pareil. Ça, Dieu, il regarde à notre cœur. Donc, ce que Dieu attend, c'est qu'on demande pardon d'une manière sincère et profonde, en s'approchant de lui, en lui demandant justement pardon pour nos péchés, et en lui demandant simplement sa grâce. Comme c'est écrit dans la parole, tout est accompli. Et la grâce est pour tous. Et comme ce peuple qui a écouté la parole de Pierre, 3000 âmes ont été sauvées. Cet après-midi, moi je crois encore que parmi nous, des âmes peuvent être sauvées. Dieu n'a pas changé. Dans le livre des Hébreux, l'auteur nous dit « Approchons-nous donc avec assurance » du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Quels sont mes besoins cet après-midi ? Est-ce que j'ai pas la paix ? Je veux la paix. Est-ce que peut-être j'ai besoin d'être guéri, d'être touché par la grâce de Dieu dans tel ou tel domaine ? Le Seigneur, il veut répondre à nos besoins. C'est ce qu'on voit dans les évangiles. Prenez une Bible, vous ouvrez les évangiles, vous verrez que certes, Jésus prêchait, mais il y avait aussi les œuvres. Et il était toujours prêt à guérir. Il a guéri 10 lépreux. Savez-vous combien se sont convertis ? 1. Mais les 10 ont bien été guéris. Dieu, il veut guérir. Ça, c'est... Il a toujours voulu guérir. Mais une fois de plus, la part nous revient de nous mettre sous sa main bénissante. Après, si on veut s'en aller, on peut. Mais quel bénéfice aurons-nous à nous écarter à nouveau ? De la main de Dieu qui nous veut tant de bien. La repentance est aussi ce demi-tour. C'est le fait de se dire, voilà, ce que je faisais jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, je te demande pardon, je regrette pour tout ce que j'ai fait. Je te demande ta grâce sur ma vie, mais je veux m'appliquer à t'être agréable. Paul écrit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans mon corps, parce que dans mon corps, on vit toujours dans ce corps, cette nature pécheresse, nous vivons encore par la foi, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme je l'ai cité, le juste vivra par la foi. Et l'apôtre Paul vivait par la foi, malgré le fait qu'il était encore dans cette vieille nature, jour après jour, il comptait sur la grâce de Dieu, et c'est ce qu'il nous faut faire. À partir du moment où on s'est repenti, certains peuvent se mettre à douter, ils se sont vraiment repentis, certains ont demandé pardon de tout leur cœur, on les a vus, etc. Et malgré tout, des fois, ils reviennent nous voir et disent « mais je sais pas, peut-être que je suis pas sauvé ». Mais c'est là qu'il nous faut nous accrocher à la parole. Il est écrit que c'est par la foi que nous vivons. C'est par la foi. Dieu nous demande de croire. Dieu ne nous demande pas de faire. Parce que sinon, on retourne sous la loi. Et la loi, c'est quoi? C'est une malédiction. Il nous faut vivre par la foi en comptant sur la grâce de Dieu jour après jour. On relit ce verset pour terminer. Actes chapitre 2, verset 41. Parce que c'est ce que j'espère cet après-midi. Que certains parmi nous prendront la victoire et voudront bien s'approcher, demander la grâce de Dieu. On voit l'apôtre Pierre, c'est un peu ce que je suis en train de faire cet après-midi, verset 40, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse, ceux qui acceptèrent sa parole ». Donc, c'est pas marqué tous, hein. Il y en a qui ont refusé. Il y en a qui n'ont pas reçu. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. On pourrait se recueillir quelques instants. Peut-être que quelqu'un cet après-midi réalise qu'il a essayé de marcher par ses propres forces, qu'il a essayé de suivre peut-être même sa propre loi. Mais devant cette propre loi, il ne peut que considérer son échec. La loi est une malédiction. Et la Bible nous dit qu'il nous faut vivre par la foi, par le moyen de la grâce. Dieu nous fait grâce. Dieu veut nous faire grâce. Dieu veut te faire grâce cet après-midi. Alors que nous sommes recueillis, peut-être que Jonathan, tu pourras porter un chant. Et je vous demanderai, si vous avez à cœur, si vous voulez qu'on prie pour vous, avancez-vous sur le devant pendant le chant. Et nous prendrons le temps de prier avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni.